Pot yaourt, ficelle.
Bienvenue dans ce 10e épisode. Je l'ai appelé un fil à la pâte. Nous n'avions pas eu le temps de faire les présentations. Aussitôt arrivés, il nous fallait faire face au danger. Nous nous sommes mis à courir à travers les hautes herbes. La terre était sèche, recouverte de poussière. Le soleil était haut dans le ciel. Nous avons pris une direction sans savoir où nous étions, sans savoir vers quoi nous nous dirigions. Il ne fallait pas s'arrêter. La fureur, le fracas, la violence de l'animal nous parcouraient le corps. Sa respiration se faisait entendre. C'est ainsi que tout a commencé. Nous étions passés dans un trou pas plus grand que la paume de la main. Notre corps s'est enroulé dans un mouvement de spirale. Nous étions assis l'un en face de l'autre, sur le parquet du grenier. Puis, quelques instants après, nous étions pris dans le tumulte d'une course-poursuite. Les branches écorchaient nos visages, les hautes herbes jaunies ne nous protégeaient pas des rayons du soleil. Soudain, une ligne d'horizon apparut. Une odeur vint à nos narines. Nous étions agressés par les reflets sur l'eau. La température avait, semble-t-il, baissé, mais une odeur de vase s'affirmait de plus en plus. Nous ne pouvions pas sauter là-dedans. Nous nous serions enfoncés. Il fallait pourtant agir. Tout ce que nous pouvions faire alors était de longer le bord de l'eau. Des oiseaux s'envolèrent tout à coup. Un coup de feu se fit entendre. Puis vint le silence. Chaque petit mouvement alentour nous était perceptible. Nous pouvions tous les deux, par nos gestes, par le contact avec la végétation, le sol, sentir les signes d'une présence. Un homme, muni d'un long fusil, regardait une masse informe. Il était de dos. Nous fîmes, sans le vouloir, un peu trop de bruit. Il se retourna, se mit en joue, mais fut interrompu avant de pouvoir appuyer sur la gâchette. Un autre homme avait surgi des hautes herbes. Il appuyait son genou contre la gorge du chasseur. Nous n'avons pas pris le temps d'écouter ce nouveau venu. Nous avons décampé aussi vite que nous le pouvions. Une voix se fit entendre. « Baissez-vous !» Un autre coup de feu retentit. L'écorce d'un tronc d'arbre vola en éclats. Nous nous couvrîmes le visage, tout en cavalant. Après quelques minutes, n'en pouvant plus, nous décidâmes de nous arrêter. Nous tendîmes l'oreille. Rien d'autre que le chant des insectes. « Ça ne me dit rien qui vaille, » déclarai-je. Et puis je n'ai jamais pu piffrer ces satanés grillons. Mon camarade ne dit pas mot. Il semblait pensif, comme arraché à cette réalité qui était désormais la nôtre. Nous n'arrivions plus à penser à avant, à cette vie normale où il suffisait de se pointer au boulot, d'avoir une femme, des gosses, une famille, un chien, une maison ou un appart. Une vie, putain! Nous devions nous calmer. Ces salopards devaient sûrement être encore proches. Nous retînmes notre respiration quelques instants, comme pour mieux humer l'air lourd et oppressant qui nous entourait. Nous ne nous rappelions plus vraiment pourquoi nous en étions arrivés là. Était-ce cette soi-disant crise financière qui avait plongé le monde dans le chaos? Ou alors, était-ce dû à cette prise de pouvoir de cet ancien ministre de l'Éducation? Tout était allé si vite, trop vite. Nous avançâmes un peu en direction du nord, dans l'espoir de trouver un point d'eau potable, et qui sait, peut-être un peu de nourriture. Après avoir marché une petite dizaine de kilomètres, nous vîmes au loin un village abandonné. Dans nos sacs à dos, pas grand-chose pour se défendre. Un couteau, une poêle, et un peu de ficelle. Nous devions trouver un moyen de nous procurer quelques boîtes de conserve, des raviolis, ou même un peu de riz. Arrivés à l'entrée du village, cachés derrière de grandes fougères et de la mousse, nous pûmes lire le panneau d'entrée de la ville, Piana. À l'époque, avant la grande réforme, c'était un petit village paisible et touristique. Désormais, tout était délabré. Les volets en bois des petites maisons pourrissaient, la nature avait repris ses droits et, ça et là, des arbres poussaient en travers des maisons, défonçant le carrelage, arrachant le bitume et s'élançait majestueux vers le ciel orangé. Après quelques minutes d'inspection, le village se révélait sûr. Nous décidâmes d'établir un petit campement et de partir au petit jour avant que les chasseurs n'arrivent et nous retrouvent. Les chasseurs. Ces petits sadiques adoraient plus que tout voir l'horreur dans les yeux des gens, tirer à tout va et se délecter de cette toute-puissance que leur accordait la loi. La grande réforme était l'une des choses les plus horribles qui soient arrivées au monde. Partout, des milliers d'hommes couraient, se débattaient pour leur survie, espérant chaque jour voir le soleil se lever. Nous n'avions pas eu de chance, comme les autres. Voilà tout. Choisis par la main innocente du jeune instigateur, nous avions accepté notre destin, la tête basse. Nous nous rappelions encore de ces mots prononcés. Votre ancienne vie se termine maintenant. Vous allez à présent affronter la vérité, la seule et unique qui permettra de juger de votre valeur. La vérité, tu parles. Une belle connerie, oui. Une fois dans le bourg, nous nous empressâmes de commencer à fouiller méthodiquement chaque maison, à la recherche de la moindre miette, la moindre goutte, le moindre bout de tissu. Nous pensions aux centaines de personnes qui avaient dû fouler ce sol avant nous, apeurées, harassées et traquées comme des bêtes, au nom de la vérité. Nous songeâmes à cette détresse que nous partagions avec eux, et c'est sans conviction que nous cherchions alors, pourtant comme des fous. Après avoir fait le tour de quelques maisons, nous commencions de réaliser l'étendue du désastre. C'est comme si quelqu'un avait pris soin de tout nettoyer. Il n'y avait plus rien à recycler. Tout avait été réduit en débris et pas une once de nourriture à nous mettre sous la dent. Quant à l'eau, une fontaine coulait sur la place du village. Mais le liquide qui en sortait avait une légère teinte verdâtre et des restes de squelettes humains jonchaient sa proximité, comme pour nous mettre au défi de la boire. La tension était montée d'un cran. Le jour tombait petit à petit et nous étions déshydratés, faméliques et fatigués. « C'est sûr, nous ne trouverons rien ici qui puisse nous aider », finit-il par me décocher avec ses yeux noirs. « Faudrait s'éloigner du bourg. Peut-être qu'en cherchant plus loin, on trouvera une ferme. Je sais pas des fois qu'il y aurait une grange avec de la paille ou du foin pour dormir, ou des poules, ou d'autres bêtes pour becqueter. » Nous avions pourtant convenu d'élire notre campement proche de ce village, et l'idée de devoir nous remettre en route à 7 heures de la journée m'excéda au plus haut point. « T'es fou, quoi. Il fait bientôt nuit, et je préfère 1000 fois dormir sous un toit à l'abri du vent et de l'humidité que de devoir m'en remettre au hasard d'une hypothétique ferme, sans parler de tous ces insectes, prêts à vous sucer le sang jusqu'à la moelle. » lui rétorquai-je alors, nerveusement. « Il faut qu'on se repose. Je ne ferai pas un pas de plus aujourd'hui. C'est vraiment n'importe quoi !» Et lui de me répondre avec sarcasme. « C'est vrai que de rester là à attendre qu'on vienne nous cueillir, c'est très malin de ta part. Pourquoi ne pas hurler tant qu'on y est? Comme ça, ils nous retrouvent plus facilement, qu'on en termine, une bonne fois pour toutes !» C'en était trop. Nous n'en pouvions plus de cette pression abominable. Oubliant soudain notre triste condition, une violente dispute éclata alors. Nous nous reprochions mutuellement notre attitude, nous touchions le fond, et nous n'étions plus d'accord sur la marche à suivre, maintenant que tout espoir semblait annihilé. L'idée qu'il serait mieux de nous séparer nous traversa l'esprit, mais c'était tout bonnement impossible. Cela avait été préalablement stipulé lors du grand contrat passé avec le jeune instigateur, le jour de notre 25e année. Cela doit vous paraître incroyable, vous qui nous lisez. Mais la technologie qu'ils avaient mise au point et dont nous avions fait les frais consistait en une reprogrammation psychologique des individus à l'aide de stimulations électromagnétiques transcrâniennes extrêmement puissantes appliquées sur leur cerveau. Ce qui en résultait était proprement terrifiant, car même en ayant conscience de la chose, il nous était impossible de lutter contre cette restructuration cérébrale. Et le fait est que nous avions été reprogrammés pour ne pas nous suicider, ne pas nous tuer mutuellement, et encore moins nous séparer. Malgré ces prisons qu'ils avaient érigées en nous, cela n'avait pas gommé nos désaccords, et par le passé, il nous était déjà arrivé d'avoir failli en venir aux mains. C'était la condition de notre pacte d'infortune, et cette idée faisait monter petit à petit la tension au cours de notre aventure. Nous ne savions pas si c'était la peur, la fatigue, la déshydratation, l'hypoglycémie, ou même des traces de notre reprogrammation, mais ce soir-là particulièrement, la situation devint explosive. Je me souviens juste le sentir me pousser en arrière, m'invectivant, le visage crispé, moi de manquer de me boiter sur une branche qui traînait là, me rattraper tant bien que mal et lui plonger dans les jambes afin de lui rendre la monnaie de sa pièce. Nous finîmes tous les deux roulant dans la poussière, à échanger des coups comme des chiffonniers. C'est alors que, sans qu'aucun de nous deux n'eût compris ce qu'il se passait, nous prîmes une rouste dans les côtes, sèche comme un coup de trique, qui nous envoya bouler sur le côté. Abasourdis, nous pensâmes soudain aux chasseurs et nous fondîmes en tétanie. Devant nous se dressait une grande tige d'où jaillissait une cascade de longs cheveux blancs qui surmontait une avalanche de barbe grise qui dévalait le haut de sa silhouette. Son regard était perçant, ses yeux malicieux, ses vêtements déchirés et délavés. Il nous toisait là, avec dans la main un grand bâton sculpté, et dans sa posture, l'assurance que réserve le maître à son esclave. Nous restâmes bouche bée, plantés sur notre postérieur à le fixer, suspendus au moindre de ses faits et gestes, avec dans nos yeux un mélange interrogateur de fascination et de crainte. Qui était-il? Un des leurs? Qu'allait-il faire de nous? Qui pouvions-nous? Cela ne me disait définitivement rien qui vaille. Nous avions tellement espéré croiser un autre comme nous ces derniers jours que l'angoisse à la vue de cet individu ne prenait pas sa pleine place. Je veux dire qu'en temps normal, nous aurions tous déjà détalé comme des lapins sans demander notre reste. Mais là, malgré la terreur, nous pouvions nous empêcher de penser que c'était peut-être mieux que rien. Nous étions tellement loin dans la fatigue et le désarroi que nous n'avions plus grand-chose à perdre. L'aventure devait forcément prendre un autre tournant, quitte à accepter que ce soit notre dernier virage. C'était comme si le temps s'était suspendu, comme si personne ne voulait prendre la parole en premier. Et puis, nous étions bien conscients que nous risquions gros, et que chaque mot qui sortirait de notre bouche serait une potentielle bombe à retardement en fonction de ce que cet individu attendait de nous. Nous étions de nouveau mis à l'épreuve, une fois de plus, et ce moment sembla durer une éternité. Soudain, l'homme, si toutefois c'était ce dont il s'agissait, leva son bâton et alla mettre sa pointe sur le sol à nos pieds. Un sursaut de peur nous traversa et nous avons même laissé s'échapper un cri. Celui devant nous ne sembla absolument pas réagir à notre frayeur. Il était tel un être de glace, impassible et froid, fier de détenir le pouvoir, seul, face à nous tous. Il commença à glisser son bâton dans le sol, le long de nos pieds. C'était comme s'il cherchait à nous tester, comme si son bâton allait lui donner des informations sur ce qu'il était censé faire de nous. Nous nous regardions en sachant très bien que quelque chose était amorcé, et quoi qu'il se passe, c'était trop tard. Même si nous étions plus nombreux, nous ne pouvions maintenant plus nous défendre à cause de ce foutu programme et de ce que cela impliquait. Dire qu'au départ, nous étions tous volontaires. Nous ne nous doutions pas une seule seconde de ce qui allait nous arriver ensuite. Le bâton s'arrêta devant l'un de nous deux et frappa 3 coups sur le sol. Avec son autre main, l'individu alla chercher en direction de ce qui lui servait de manteau. Il en ressortit un bout de papier tout chiffonné, le donna à celui devant lequel le bâton s'est arrêté. Nous étions à présent séparés, séparés par un pauvre bout de bois qui semble avoir gesticulé autour de nous sans aucune logique. Il aurait chanté la comptine de la vache qui pisse dans un tonneau, que ça aurait été la même. Nous avions peur de cette chose qui se trouvait devant nous, mais nous étions heureux de tomber sur quelqu'un d'autre que nous, et puis après tout, nous étions 2 face à 1. Mais là, nous séparés, il ne pouvait rien nous arriver de pire. Et pourtant, le regard furieux de celui qui ressemble à Groot dans Les Gardiens de la Galaxie ne semblait pas nous laisser le choix. C'est à ce moment précis où nous nous questionnions. Qu'est-ce qui nous a pris de faire partie de ce foutu programme ? Oui, effectivement, nous étions fauchés, mais pas prisonniers, pas obligés. Ce doit être dans les gènes. Nos parents participaient à des expériences médicales pour se faire de l'argent. Le manque de testostérone, la maladie d'Alzheimer, ou encore le paracétamol. Une tous les 2 mois environ. De quoi se laisser vivre jusqu'aux prochaines. C'est sûr, ils avaient la belle vie. C'est qu'aujourd'hui, c'est le travail à la chaîne, la productivité et le profit qui comptent. Dans notre ancien job, nous n'avions même plus le temps de lever la tête pour se rendre compte dans quel merdier nous nous trouvions. Nous étions tellement fatigués que nous ne réfléchissions pas à notre sort. Comment voulez-vous que nous ayons eu le temps ? Nous nous levions vers les 5 heures du matin. Nous avalions notre café avant de partir au travail. Une pause cigarette et toilette toutes les 4 heures. Et à la fin de la journée de travail, vers 22 heures, nous retournions à la maison, manger, avant de se coucher. Sauf qu'un jour, un ancien voisin, celui à côté de qui nous avons vécu, est venu nous trouver et nous a parlé d'un programme miraculeux. Voilà, c'est fini. Je tiens à remercier Gauthier, Moïse, Lydie et Sophie pour leur participation à l'écriture de ce texte. Sans oublier le musicien de cet épisode, qui cette fois-ci n'était autre que Tsi. À la prochaine.